SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
On va parler campagne pour les élections législatives 2024 dans la 11e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend notamment l'Australie. Et pour en parler, j'ai en ligne M. Franck Pajot, candidat du Nouveau Front populaire actuellement en Australie pour faire campagne. Monsieur Franck Pajot, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur SBS French.
Bonjour à vous.
Vous êtes candidat et vous vous présentez dans cette circonscription qui est, je crois, la plus grande circonscription électorale au monde. Avant d'aller dans le vif du sujet de la campagne, parlez-nous d'abord des défis et des opportunités de pouvoir vous présenter dans une circonscription aussi étendue.
Alors c'est effectivement la plus grande parce qu'elle est la plus grande du monde, la plus grande circonscription française du monde. Elle est faite de 49 pays. Ça va de l'Europe orientale, tous les pays de l'Asie et tous les pays de l'Océanie. Concernant les enjeux, c'est une circonscription passionnante. Ça m'a motivé d'ailleurs pour candidater à cette circonscription. Il y a des enjeux pour la France et il y a des enjeux pour les Français qui y vivent. C'est passionnant parce que il y a une grosse différence sur les problématiques des Français qui vivent en Thaïlande, par exemple, qui sont très préoccupés par les affaires sociales, la CFE, la retraite, la fiscalité. Avec les Français, je suis actuellement à Sydney. J'ai rencontré des entrepreneurs avec des problématiques qui peuvent être similaires sur les questions de la politique nationale, de la peur des événements à venir, sur la question du multiculturalisme, sur la question de la binationalité, des vraies problématiques passionnantes sur les Français avec des problématiques différentes. Sur la question nationale, pour moi, cette circonscription, elle est au centre du monde. C'est-à-dire que les enjeux, ils sont géologiques, écologiques, la question de la gestion de l'eau, économique, ils sont nombreux. C'est-à-dire que vous avez la Chine au centre, vous avez Taïwan, vous avez la Russie, vous avez l'Ukraine. Donc, il y a deux pays qui sont en guerre aux portes de l'Europe. Donc, un député, il doit s'exprimer sur ces questions-là, il doit se positionner sur ces questions-là et il doit être relais vis-à-vis d'un gouvernement, il doit apporter son expertise sur les questions de la circonscription. Ça en fait une circonscription passionnante, je vous l'ai dit.
Et pour l'Australie où vous êtes arrivé à Sydney hier, et vous faites campagne, quels sont les enjeux parce que c'est quand même un grand pays avec beaucoup de gros intérêts français sur le plan industriel et commercial quand même, hein. Et quels sont les enjeux que vous voyez? Comment est-ce que vous approchez cette partie précise de votre circonscription, l'Australie?
L'Australie, c'est 19 000 Français hein, qui sont ici, enfin plus, mais 19 000 électeurs, avec une position économique intéressante sur des sociétés. J'ai rencontré des gens qui travaillent sur le développement durable, sur la tech, sur la question des data. J'ai rencontré des responsables de banque. C'est-à-dire qu'il y a un tissu économique très important ici, avec des intérêts géopolitiques sur cette zone qui pourrait être impactée par un conflit asiatique, on va dire. Donc, ces Français-là qui vivent ici, j'en ai rencontré quelques-uns, j'en ai rencontré d'autres. Ils sont préoccupés par des problématiques locales, l'école, les questions de frais de scolarité, la question des aides sociales, mais aussi ils sont passionnés par les questions politiques actuelles. C'est-à-dire qu'il y a une vraie peur d'une prise du pouvoir du Rassemblement national.
pour en revenir au Rassemblement national, c'est un parti qui a connu dernièrement une percée fulgurante, même ici on en parle. D'après vous, comment expliquer cette percée du Rassemblement national ?
Un chaos a été installé en France, hein, donc je pense que on est dans une société actuellement fracturée, divisée, haineuse. Le débat politique est très dur. Finalement, les gens, on a des gens en colère, hein. On a des gens, il y a un fond idéologique, mais pas seulement. On a des gens fâchés, en colère, maltraités. Donc, ils se retournent finalement vers un parti populiste qui n'apporte pas les bonnes solutions, mais qui prend quand même dans son discours une certaine population qui se dit finalement, il y a eu la droite, ils ont rien fait pour nous. Il y a eu la gauche, ils ont rien fait pour nous. On nous a vendu le ni droite ni gauche avec Emmanuel Macron et ça a été le chaos. Donc ils se retournent vers un discours populiste apporté par le Rassemblement national et ça explique finalement cette porte. C'est-à-dire que on n'a plus à craindre le Rassemblement national. Ils ont déjà un pied dans la société. On est à quelques jours du scrutin et ce Front populaire qui est né finalement de cette peur. Ce rassemblement, qui n'a pas été simple, il s'est quand même fait avec des différences, avec des fissures aussi, hein, dans entre les différents partis de gauche qui se sont rassemblés. Mais ce qui compte, c'est la question du rassemblement et la question d'un programme qui a été fait, qui a été chiffré avec un cadre temporel qui me paraît intéressant, hein, ces fameux 100 jours, les 15 premiers jours et les 100 jours, qui va permettre de retrouver une société apaisée avec des vraies mesures sociales qui, j'espère, conviendra aux Français. Sur la question des Français de l'étranger, il y a un vote caractéristique avec une montée du Rassemblement national, mais je pense que localement, on n'a pas à craindre d'un Rassemblement national. C'est plus complexe ce qui se passe. Il y a un rejet d'une députée sortante qui n'a pas été présente sur la circonscription, qui n'a pas pris la mesure des problématiques de cette circonscription et qui a abandonné les gens. On le voit sur la question du Covid en Chine, elle a perdu son électorat. On le voit sur des questions culturelles, sur des questions économiques. Elle s'est tournée vers une position nationale et elle a délaissé les Français qui vivent dans sa circonscription.
Quels sont vos principaux adversaires dans cette campagne? Est-ce le gouvernement, enfin le tandem Macron-Attal ou le tandem Marine-Bardella sur le plan national? Et dans la circonscription, qui sont vos adversaires?
Mon adversaire, c'est le chaos. Moi, je veux retrouver une société apaisée. Clairement, mon adversaire, c'est le Rassemblement national, hein, qui n'apporte pas, malgré ce que certains pensent, des solutions aux problèmes des gens. Mais mon deuxième adversaire, c'est aussi cette majorité présidentielle qui nous a menti. Qui, je pense que dès le départ, ce concept de ni droite ni gauche, pour moi, a été une escroquerie politique auquel j'ai ni été tenté ni adhéré. Voilà. Alors dans la circonscription, évidemment, je ne veux pas faire les élections avant les élections. Il y a un premier tour, il y a 15 candidats, il n'y a pas de petits candidats. Donc je fais campagne, calmement, sereinement, je rencontre les gens, parce que c'est ma conception de faire de la politique, je leur parle, j'essaye de comprendre leurs problèmes, je visite les lieux où les Français évoluent, je fais au maximum, parce qu'on est un peu privé de démocratie quand même. Hein. La dissolution, elle a du sens politique. Hein. On avait un gouvernement qui ne pouvait plus gouverner, qui ne gouvernait pas d'ailleurs, donc elle a du sens. Ce qui n'a pas de sens, c'est le timing. C'est-à-dire que on nous impose un temps de 3 semaines pour cette campagne. Le temps de tout installer, elle se réduit à 1 semaine. Ça, c'est pas possible. Mais finalement, on s'en sort plutôt bien parce qu'on a une belle expertise de cette circonscription. Moi, je m'appuie sur les élus, je m'appuie sur les responsables syndicaux, je m'appuie sur les responsables d'associations. On a un tissu associatif extraordinaire. Il a été abandonné, délaissé. Moi, je rencontre. J'étais à Tokyo il y a 2 jours, j'ai rencontré des responsables d'associations. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu Angente, qui est la députée sortante. Elle signe encore ses courriers, votre députée. Non, elle n'est plus députée, il y a une dissolution. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas été proche des gens, qui n'a pas été à l'écoute des gens, qui ne répond pas aux messages des gens. C'est pas normal, je le vois bien. Pour moi, un député, c'est un élu national, mais c'est aussi un élu de proximité. Il doit analyser les problématiques de la circonscription. On l'a dit, elles sont variées, elles sont complexes, elles sont nombreuses. Il doit être à l'écoute des gens, il doit soutenir les associations, il doit consulter les responsables politiques locaux, il doit consulter les responsables d'associations, il doit aller voir les élus. J'ai de nombreux élus derrière moi, les élus locaux, les conseillers des Français et de l'étranger. Moi, Anne Gentel est venue en Chine, je suis élu conseiller des Français et de l'étranger, j'ai pas été invité à sa visite. Elle m'a pas consulté. Quand un sénateur de gauche vient dans la circonscription, il écrit à tous les élus. C'est ça la République. Elle se vante d'être la seule républicaine. Elle se vante d'être la seule européenne. Elle dit qu'elle est digne. Ça, c'est de l'indignité. Moi, je donne pas de leçons. Je suis européen. Je suis républicain. Et je donne pas de leçons à Madame Gentet, savoir si elle est républicaine ou européenne. Je fais ma campagne. Je suis pour la paix. Je m'exprime sur les sujets de la circonscription.
Là, c'est une déclaration très forte et je vous signale que nous allons lui parler, lui poser des questions aussi parce que ça fait partie de notre devoir de médias publics. Contactez vos adversaires aussi et ils ont un mot à dire. Et vous-même, vous êtes du Parti Socialiste, si je ne m'abuse. Et la coalition de la gauche, donc le Nouveau Front Populaire, c'est une coalition qui rassemble des partis dont les personnalités et les politiques peuvent être très divergentes, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Pensez-vous que cette coalition va perdurer après les élections? On se souvient surtout de l'échec d'une précédente coalition, la NUPES. Ou bien c'est une initiative ponctuelle, on dégage les tandems Macron-Attal et Marine Bardella, puis on verra.
Je suis très optimiste. D'abord, on n'est pas, c'est pas la NUPES 2. Dire que la NUPES est un échec, on pourra en parler. Je suis pas sûr que ça soit le sujet. La NUPES n'a pas été au pouvoir, donc il y a des différences. Il y a de nombreuses différences de point de vue, soit entre le LFI, PC, Parti Socialiste. Oui, je suis Parti Socialiste. Je l'assume, je le répète localement. Ça plaît pas forcément à tout le monde, mais l'idée c'est pas ça. L'idée, c'est le rassemblement. Et je dirais même qu'on va rassembler dans cette circonscription au-delà des partis de gauche. Et quand je le dis, c'est que j'ai déjà des éléments qui me permettent de dire que finalement, c'est toutes les forces républicaines qui veulent se rassembler derrière ma candidature. Donc, oui, ça va perdurer. Oui, il y aura des échanges. Il y a un programme. Il y a un programme très clair. J'en ai parlé avec des éléments, avec un cadre temporel. Et c'est ce qui me plaît. Moi, j'ai adhéré tout de suite. Il y a ces fameux 15 jours pour apaiser avec des vraies réformes, réformes sociales, réformes écologiques sur l'urgence climatique, réformes économiques. Et ces points de programme, c'est ce qu'on défend. C'est ma position au sein du nouveau Front Populaire. Je porte les idées de ce programme. Sur l'après, il y aura des différences. Moi, je suis enseignant. Ça me fait pas peur, le débat. Je pense que le débat, il conduit finalement à de bonnes idées. C'est comme ça qu'on progresse. On n'est pas forcément d'accord. Mais il faut surtout se rassembler autour des points d'accord. Et ils sont nombreux, finalement. Ils sont beaucoup plus nombreux que les points de désaccord. Donc ça m'inquiète pas. Et l'idée, c'est le rassemblement. L'idée, c'est de réparer notre société. L'idée, c'est de donner de la crédibilité, d'apaiser, de retrouver une société où les gens vont être capables de se parler, où il n'y aura pas de haine. Moi, je suis très inquiet. Finalement, on est avec l'arrivée éventuellement du Front National ou l'absence de majorité, on pourrait aller vers une guerre civile, vers des choses très violentes. On n'est pas loin de ce genre de choses. On a une société particulière en France hein, qui est faite, qui a une histoire. Il y a des gens qui vont souffrir si le Rassemblement National arrive au pouvoir.
Il y a une crainte, mais vous avez quand même exprimé un certain optimisme de l'après-législative. Et c'est un optimisme partagé par beaucoup dans votre coalition. Il y a même beaucoup qui appellent à la désignation d'un futur Premier ministre en cas de victoire. Mais on a aussi vu les remous suscité le week-end dernier par la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui avait suggéré qu'il serait candidat à Premier ministre. Quel est votre avis là-dessus?
Alors j'ai un avis très clair, hein. Pour moi il n'y a pas de sujet pour l'instant. Pour moi c'est de la propagande, on fait peur. C'est le parti présidentiel, qu'est-ce qu'il dit, hein? D'ailleurs Anne Gente, dans ses courriers, elle met la photo de Mélenchon. Elle parle d'extrême gauche. Je ne suis pas d'extrême gauche. Et je crois que les gens, les électeurs ne sont pas idiots, ils n'ont pas à avoir peur de ça. D'abord, on est sur une élection législative. Un Premier ministre, donc tout ça c'est de la propagande politique. Il est désigné, et il est désigné par le président. À l'issue du deuxième tour. Alors certes, les résultats du deuxième tour vont influencer sur la désignation du Premier ministre. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon, d'abord, je ne suis pas dans la tête du président de la République, je ne suis pas non plus devin sur le résultat des élections, mais je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon sera désigné Premier ministre. Il faudra quelqu'un qui fasse consensus, mais tout ça... Se fera en fonction des résultats d'une élection démocratique de candidats qui se présentent avec des convictions. On voit bien que finalement, ces candidats, ils se situent à gauche, le nouveau Front populaire, à l'extrême droite et certains républicains à droite. Encore une fois, pour moi, la Macronie sont des gens qui sont sans conviction et ça a conduit au chaos.
Ça, c'est une déclaration très très forte, mais nous leur poserons des questions aussi et ils auront l'occasion d'avoir leur mot à dire. Voilà, Monsieur Franck Pajot, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler de votre campagne pour les législatives 2024, des élections dans lesquelles vous êtes candidat pour la 11e circonscription des Français de l'étranger.
Eh bien, je vous remercie pour cet échange.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.